Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui nous parle des deux grands apôtres des Slaves que sont Saint-Cyrille et Saint-Méthode. Ces deux frères natifs de Thessalonique ont vécu au 9e siècle et sont décédés respectivement à Rome et en Grande-Moravie. Vénérés par les orthodoxes et les catholiques, copatrons de l'Europe depuis Jean-Paul II, ils ont évangélisé les peuples slaves de l'Europe centrale. Le génie de Byzance, incarné par ces deux saints, a guidé Slaves et Bulgares vers une culture d'expression slave. Don Bolduc, bonjour.
Bonjour.
Vous nous amenez là cette fois-ci dans des contrées que, en tant que catholique, on n'explore pas souvent.
Ben non, justement, c'est dommage parce que c'est des saints très importants, très intéressants.
En plus, Saint Jean-Paul II a créé six copatrons, donc trois hommes, bien trois oui. femmes, de l'Europe pendant son pontificat. Et Cyrille et Méthode, avec Saint Benoît, sont les trois hommes, donc patrons. Et il y a Sainte Brigitte, Sainte Catherine de Sienne et Edith Stein qui sont les copatronnes de l'Europe.
Ah oui.
On est au 9e siècle à Thessalonique. Oui. Ça bouillonne beaucoup à cette époque-là?
C'est une période difficile. C'était très difficile parce que les gens de l'Europe de l'Ouest n'aimaient pas ceux de l'Europe de l'Est.
Ah bon?
Alors, les Slaves étaient considérés un petit peu comme des gens là qui...
Des barbares?
C'était des gens très peu instruits. Hein, très, mm-hmm. Parce que leur langue n'avait pas d'alphabet. Alors, ils n'étaient pas capables d'écrire leur langue. C'était des langues parlées seulement. Mais pas des langues écrites.
D'accord.
Alors, c'était très difficile de prêcher à ces gens-là, puis leur expliquer la doctrine chrétienne, alors, parce que il n'y avait pas de référence, vous savez, c'est des gens qui étaient très, très peu instruits. Les gens de l'Ouest, ils considéraient un peu comme des barbares.
Mm-hmm.
Alors, c'est là que les deux saints là, ont fait un travail extraordinaire pour civiliser pratiquement ces gens-là, leur montrer à lire et à écrire, mm-hmm. et puis à compter aussi, et puis en faire les peuples plus cultivés.
Mm-hmm. Politiquement, on est vraiment autour du traité de Verdun, signé en 843,
oui.
et qui va diviser en trois l'Empire franc, donc de Charlemagne.
Oui. Oui.
Et à droite, à l'Orient, si vous voulez, ça va être la Francie orientale, qui va être ensuite le Saint-Empire romain germanique, et qui se considère l'héritière de l'Empire de Charlemagne. Et là, eux aussi auront maille à partir avec les Slaves.
Ah ben oui, justement, eux autres, ils acceptaient ça plus ou moins. Par exemple, l'évêque de Salzbourg, puis les gens de la Bavière, le sud de l'Allemagne, eh bien, eux autres, là, ils considéraient que ces gens-là, là, vous savez, c'était des gens plus ou moins barbares, puis ils voulaient s'imposer dans l'Église, alors que c'est des gens qui ne savaient pas lire en grande partie.
Ah bon?
90% de ces gens-là ne savaient pas lire.
C'est un peu comme ça partout.
Alors, il fallait commencer par leur faire un alphabet.
Ouais.
Et puis leur montrer à écrire, puis à lire, puis à écrire, puis à compter. C'est un enseignement très primaire, vous savez.
Alors, on arrive à l'origine. Donc, Cyrille et Méthode sont deux frères nés en Thessalonique. Cyrille est l'aîné de Méthode. Dans quel milieu est-ce qu'ils naissent?
Ils étaient dans un milieu très spécial parce que leur père est un haut fonctionnaire de l'Empire d'Orient.
Mmh.
Alors, c'était des gens très instruits, puis c'est des gens qui ont eu, durant leur jeunesse, là, une éducation très poussée, surtout Constantin. C'est-à-dire Constantin, quand je parle de Constantin, là, c'est Cyrille, parce que Cyrille, c'est le nom qu'il a pris quand il est devenu moine.
Ah,
il est entré dans un monastère, puis là, il a laissé son nom de Constantin pour prendre le nom de Cyrille. Mais à ce moment-là, là, c'était déjà quelqu'un de très instruit, et puis on l'appelait le philosophe. Puis,
Constantin, le philosophe, tout à fait.
Tout à fait.
Alors, les deux se destinent, donc, Constantin... qui deviendra Cyrille, et Méthode, son frère, vont se destiner à des carrières de fonctionnaires.
Oui, parce que, évidemment, leur père était déjà un haut fonctionnaire, mais il est décédé au moment où Cyrille avait 14 ans.
Oui.
Alors, ses enfants ont continué leur éducation, leur instruction, et puis après ça, ils ont continué à suivre leur père. Alors, ils sont devenus des fonctionnaires importants, mais ils se sont convertis au catholicisme, parce que c'est ce qu'ils l'étaient déjà, mais seulement là, ils ont décidé de se convertir à la vie religieuse et puis d'exercer un apostolat surtout de
religieux. Pardonnez-moi, à l'époque, on ne disait pas orthodoxe ou catholique, il n'y avait pas le schisme encore.
Non,
mais
dans ce temps-là, il n'y avait pas de schisme.
Donc ils se sont convertis au christianisme.
Oh, oui, c'est ça.
Hein? Donc, ils vont même, je crois que c'est Constantin ou Cyril qui va faire, en tant que diplomate, il va faire une ambassade auprès du calife Jafar al-Mutawa, qui est le premier qui va rayer l'influence des rationalistes en musulmans, je pense.
Ah oui?
C'est quand même quelqu'un qui a de l'envergure.
Je vous assure que c'est des gens de haute qualité, et ouais. Puis des gens qui voulaient vraiment faire une œuvre d'évangélisation. D'ailleurs, mm-hmm. C'était une grosse famille, vous savez, c'était sept garçons dans cette famille-là.
Ah bon?
Et puis des filles en suivant tout ça, puis des gens très instruits, puis enfin, très dynamiques, puis tout ça. Mais Méthode était plus âgée que l'autre, hein?
Oui, tout à fait.
Oui.
Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont entrer en vie religieuse, et là, ils vont vraiment ils vont mettre au point ce qu'on appelle l'alphabet glagolitique.
Oui.
C'est quoi l'alphabet glagolitique?
En fait, c'est un alphabet que les gens de ce pays-là pouvaient comprendre, vous savez.
Ah, ok, d'accord.
Ils disaient, bien, il faut que, par exemple, pour les offices liturgiques, voyez-vous, pour les prières à l'office, les lectures de l'Évangile, tout ça, il faudrait traduire. C'est ça qui était leur premier travail. Ils ont essayé de traduire les textes principaux de l'Écriture dans une langue populaire. Puis alors, il a fallu créer cette langue-là. Mm-hmm. Et puis, enfin, de façon à ce que tout le monde, ils prenaient les paroles que les gens employaient, et puis ils ont fait un alphabet avec ça, donc ils ont fait une langue écrite, et puis alors là, bien, ils ont montré aux gens à entendre l'Écriture, puis à entendre les récits de l'Évangile, puis les épîtres de Saint-Paul, puis les textes anciens du Nouveau Testament.
Don Bolduc, est-ce que quand on dit l'alphabet glagolitique, c'est la même chose que l'alphabet cyrillique pour le bulgare, le russe, le serbe?
C'est un petit peu différent, cyrillique, hein? Mais seulement, ça revient au même, pas mal. L'idée, c'est d'avoir un alphabet que les gens puissent saisir, puis comprendre, et puis enfin, mm-hmm. que tout le monde puisse comprendre, parce que les gens, ils savaient pas quand on disait dans un... Comment voulez-vous exprimer, par exemple, un mot comme la transubstantiation, et puis comment voulez-vous exprimer ça quand vous n'avez pas de vocabulaire? Il fallait créer un langage, en quelque sorte, pour que les gens vont comprendre, pour ensuite leur permettre d'apprendre le christianisme, d'entendre la lecture des évangiles, puis des épîtres de Saint-Paul, puis ça.
Alors, Don Bolduc, c'est intéressant.
C'est un travail qu'ils ont fait, un travail de base.
Tout à fait, oui.
C'est pour ça qu'ils ont eu une influence extraordinaire, ces deux frères-là. C'est des gens qui... Surtout que Cyril, qui est décédé à 40 ans, imaginez-vous, il s'est converti, il est entré dans la vie religieuse vers l'âge de 28-29 ans, puis il est décédé à 40 ans.
Alors,
dans
l'espace
de 10-12 ans, là, il a fait un travail incroyable.
Il y a aussi un autre travail, Don Bolduc.
Oui.
Il y a un autre travail, c'est que les deux frères, donc Cyril et Méthode, sont envoyés chez les Khazars, qui sont un peuple des steppes établis au nord de la mer Noire, et ils étaient devenus juifs au 9e siècle, et donc ils sont allés là-bas pour convertir.
Ah oui, c'est ça. Vous savez, on leur a confié des missions très importantes parce que c'était des gens extrêmement qualifiés et puis désireux de faire du bien et de faire répandre le message du Christ.
Mm-hmm. Et ils vont même rapporter à Rome des reliques du pape Clément Ier.
Clément Ier, c'est un personnage très important, hein, parce que c'est de Saint-Pierre.
Mm-hmm.
Alors, seulement, on n'est pas sûr si c'est vraiment des reliques authentiques, là, vous savez. Mais en tout cas, c'était des textes, des ossements qui ont vu, puis qui leur ont été présentés comme ceux du successeur de Saint-Pierre. Alors, quand ils sont arrivés à Rome avec ça, c'était, une journée extraordinaire dans la ville. Les Romains étaient très, très fiers de ça.
Alors, on va retourner un peu vers l'ouest. Il y a Rastislav qui veut demander l'appui du pape pour renforcer son État et la chrétienté. Donc, il va s'adresser au pape et il va s'adresser également à Byzance. Et donc, il aura un peu il va chercher chez le patriarche Photius et l'empereur Michel III du soutien. Et c'est là où Cyril et Méthode s'illustrent également, non?
Ah oui, c'est là qu'il a fait un travail très, très important. Parce que les orientaux, vous savez, Rastislav, puis tous ces personnages de rien, ils voulaient avoir des contacts avec le pape, puis avec les pays d'Occident aussi.
Oui.
Ils voulaient avoir des contacts avec eux autres, puis enfin, ils voulaient se développer, puis tout ça, puis ils aspiraient à améliorer leur vie.
Mais alors, il y a un grand problème, c'est qu'à l'époque, dans le christianisme, il n'y a que trois langues qui sont religieuses légitimes, donc l'hébreu, le grec et le latin. Alors, le vieux Slavon n'a pas droit de citer, et donc là, ça fait toute une histoire avec les évêques de Bavière, notamment.
Oui, je disais, ben, quand on parle au bon Dieu, il faut lui parler dans une langue qu'il comprend. Il comprend rien que le latin et le grec.
Mm-hmm. Et l'hébreu.
En réalité, c'est pas ça. Bon, il comprend toutes les langues, et puis enfin, il comprend même les désirs informulés de notre âme. Mais seulement, il reste que quand même, là, on n'imaginait pas qu'une langue, à part du latin ou du grec, là, puisse être une langue liturgique, et puis enfin, puisse être employée dans la prière publique. Mm-hmm. Alors, ben, lui et les autres, ils ont dit, ben, enfin, il faut quand même faire quelque chose, ce côté-là.
Mmh. Donc, il y a cette opposition grandissante du clergé de ce qui va devenir le Saint-Empire romain germanique, qui veut redevenir catholique, et dans certaines contrées, le cyrillique, enfin le vieux slavon, va régresser, et il faut attendre également la destruction du royaume de Moravie, qui était donc, qui avait adopté la liturgie slavone, par les Magyars, les ancêtres des Hongrois.
Voulait se convertir, puis enfin, il y avait dans plusieurs peuples d'Europe de l'Est à cette époque-là un désir de conversion, puis d'entrer dans le monde moderne pratiquement, vous savez. C'était des gens qui voulaient donner leur vie à Dieu, puis ils étaient inspirés par l'Esprit Saint, puis ils voulaient vraiment devenir des chrétiens à part entière.
Mais cette dispersion des disciples de Cyril et Méthode, parce que là, ça fonctionnait leur affaire, cette dispersion va paradoxalement essaimer, donc, vous allez avoir les Bulgares, les Serbes et les Russes qui vont adopter cette liturgie et cet alphabet.
Surtout par l'influence de l'Ukraine. L'Ukraine, puis le sud de la Russie, là. Cette région-là, c'était pas mal peuplé à l'époque. Et puis, les gens voulaient vraiment faire un pas d'avance. Ils voulaient se moderniser. Enfin, ils voulaient entrer dans le monde civilisé.
Mais là, on voit aussi, il nous reste une petite minute quand on parle de Cyril et Méthode. Évidemment, ça fait railler dur avec le Saint-Empire romain germanique. Ça a dû être là aussi une autre source de tension entre l'Occident et l'Orient qui aboutirait au grand schisme de 1054.
Oui, évidemment, c'est ça. Mais avant le grand schisme, il y a eu des papes, vous savez, qui ont joué un rôle extrêmement important. Par exemple, le pape Jean VIII, qui est un homme de Dieu, vous savez. Quand on voit sa manière d'agir, on a une admiration sans borne pour cet homme-là.
Jean VIII, hein?
Jean VIII, puis, vous savez, il y a eu plusieurs papes, les très grands papes, puis les hommes de Dieu, puis les gens, là, vous savez, qui avaient une vision spirituelle là, très grande, et puis qui ont fait un rôle important. Mais tout ça, ça se passait avec les deux frères.
Cyril et Méthode.
Cyril et Méthode, ils étaient au milieu de ça, Méthode est mort beaucoup plus âgé. Lui, par exemple, il est vu chrétien à l'âge de 40 ans à peu près, mais il est mort à 70 ans. Alors, il a eu le temps de travailler beaucoup, puis il a eu le temps d'avoir un poste très important chez les Moraves, par exemple. Il est devenu l'évêque de tous ces pays-là. Là. Puis enfin, vous savez, c'est deux personnalités qui ont joué un rôle extrêmement important. Et puis enfin, ils ont eu un apostolat là, extrêmement diversifié, puis enfin, par tous les moyens. Puis enfin, il faut dire aux gens les textes.
On va devoir arrêter, Don Bolduc. Dans Bolduc, on parlait de Saint-Cyril et Saint-Méthode au 9e siècle. Merci beaucoup, Don Bolduc. On vous parle la semaine prochaine. On va parler d'Alexis Falconieri et des servites de Marie. Ça vous va?
Ah oui, c'est ça, demain.
Merveilleux. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, il n'y a pas de demain. Voici donc à la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.